Rebonjour, chers auditeurs. Vous écoutez le numéro de rentrée dans Spectateur, l'émission de critique de spectacle vivant sur Transistor. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et pour bien démarrer l'année, je vous propose de rencontrer notre tout premier partenaire, l'association En Scène, qui investit très régulièrement le théâtre Cantor. Et pour cela, aujourd'hui, je reçois sa présidente, Camille. Bonjour.
Bonjour.
Ainsi que, en seconde partie de l'émission, pour un entretien, Corentin. Bonjour.
Bonjour.
Et Adèle.
Bonjour.
Mais donc, on va commencer avec toi, Camille. Alors, il y a sans doute des primo-arrivants dans la salle. En quelques mots, pour nos auditeurs, En Scène, qu'est-ce que c'est ?
Alors, En Scène, qu'est-ce que c'est ? J'ai été amenée à faire ce genre de discours à peu près 1 milliard de fois depuis le 1er septembre.
Une fois de plus.
Donc, une fois de plus. En Scène, c'est l'association qui gère la programmation culturelle de l'école, donc qui va à la fois vous aider à réaliser vos projets, puisqu'on a deux appels à projets dans l'année qui vous permettent, si vous avez des velléités artistiques, de proposer un projet et de pouvoir éventuellement le jouer dans le théâtre Cantor. Et du coup, c'est aussi l'association qui produit les spectacles, qui organise toute la saison culturelle avec des projets d'élèves tout au long de l'année, que ce soit des pièces de théâtre, des concerts, des spectacles de danse aussi. Et voilà.
Mais alors, c'est d'autres choses aussi. Il me semble qu'il y a un club théâtre, par exemple.
Oui, c'est aussi effectivement des clubs culturels. Alors, il y a un atelier théâtre. Qui a été renommée cette année la vieille branche, qui vous permet, si vous avez envie de faire du théâtre, de monter vous-même sur les planches sans forcément monter un projet, de justement rejoindre ce club théâtre animé par deux merveilleuses artistes, Séverine et Nadine, qui animent le club toutes les semaines. C'est aussi un atelier impro, où du coup, si vous avez envie de faire du théâtre d'improvisation, vous pouvez rejoindre le club impro. Et cette année, de nouveau, un club chorégraphique qui vous permet de monter un spectacle de danse avec une équipe dynamique, motivée et extrêmement enthousiaste. Et c'est cette année le retour de l'atelier chorégraphique.
D'accord, Camille. Alors du coup, on va pouvoir parler un peu de la programmation d'En Scène à venir. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois avec vous ?
Eh bien, déjà, dans les prochains mois, même pas les prochains mois, les prochaines semaines, nous avons donc le Festival des Cités Muses qui est organisé chaque année. Et cette année, c'est la 10e édition des Cités Muses.
Bon anniversaire, les Cités Muses.
Voilà. Donc, les Cités Muses, c'est un festival de jeunes créateurs qui a été organisé pour la première fois donc il y a 10 ans, qui vise en fait à inviter de jeunes artistes, jeunes metteurs en scène, jeunes comédiens en voie de professionnalisation à jouer au cours d'un festival qui dure entre 10 jours et 2 semaines. Cette année, les Cités Muses auront lieu du 28 septembre au 8 octobre. Et donc, c'est pratiquement tous les soirs du cinéma pour Cités Muses, cinéma,
ah,
théâtre.
Ah, retour du cinéma, donc.
Oui,
il y a l'année dernière.
Si, il y avait aussi des courts-métrages de l'atelier de réalisation.
D'accord.
Et là, ce sera la même chose. Il y aura deux soirées de courts-métrages. Donc, des courts-métrages, des pièces de théâtre, des concerts, des pièces de théâtre autant dans le théâtre Cantor qu'ailleurs dans les jardins ou dans l'ENS. Donc voilà, c'est le gros moment culturel de la saison à ne pas manquer.
D'accord. Alors, une fois que les Cités Muses seront passées, qu'est-ce qui nous attend ?
Alors, comme d'habitude, on a un spectacle par mois en Cantor. Donc, le premier spectacle, ce sera un spectacle de théâtre lyrique qui s'appelle La Serva Padrona, qui est une pièce lyrique de Pergolèse, qui jouera les 20, 21 et 22 octobre. Puis, en novembre, ce sera une pièce intitulée Charogne, qui est en fait un diptyque entre Antigone de Sophocle et un monologue de Peter Schaeffer un diptyque autour du thème de la charogne. Et donc en décembre, on aura une pièce qui s'appelle Les Fous Furieux, qui est une pièce écrite par une des membres d'En Scène, Agathe Perrard, qui est au Pôle Technique cette année.
D'accord.
Et qui a écrit et monte sa pièce. Puis en janvier, ce sera Electra Garrigo, qui est une réécriture du mythe d'Electre, montée par Magdalena. Magdalena Bourneau, et voilà. Et du coup, c'est toute la programmation qu'on a cette année, parce que dès octobre, dès sans doute le 13 octobre, pour être très précise, nous lancerons le deuxième appel à projet qui permettra de définir la programmation entre février et juin 2016.
D'accord, et donc tout ça se retrouvera donc sur votre site enscène.org.
Voilà.
Alors, on va revenir un peu sur les Cités Muses, donc on a eu un petit aperçu, on sait qu'il y aura du cinéma. Est-ce que vous pouvez déjà nous énoncer la programmation et nous parler un peu des spectacles qui vont être proposés plus précisément ?
Alors, donc les Cités Muses commencent le 28 septembre avec une pièce qui s'appelle Perplexe. Alors Perplexe, c'est une pièce qui est montée par des étudiants de l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre.
C'est bien.
C'est à Lyon.
Elle a bien réussi.
Et donc Perplexe, c'est avant toute chose quatre acteurs sur un plateau, quatre égaux, quatre personnages en puissance. On leur a donné une plante, un jouet, des ordures et quelques informations nébuleuses sur ce qu'ils pourraient peut-être raconter ensemble. Et on leur a dit « démerdez-vous ».
Donc, oh, ça a l'air obscur.
Voilà.
Mais c'est drôle.
Mais c'est drôle.
C'est très drôle.
Oui, bon. Donc ça c'est le 28 septembre. On enchaîne le 30 septembre avec une première soirée de projection des courts-métrages de l'atelier de réalisation. Donc on a choisi de faire ça en deux temps, les deux mercredis des Cités Muses, le 30 puis le 6, il me semble.
Il me semble que c'est le 6.
Ouais. Et puis le 6 octobre. Donc voilà, première soirée de court-métrage. Puis le 1er octobre, ce sera la première soirée concert des Cités Muses. Ensuite, le 2, donc vendredi 2 octobre, ce sera une reprise de Orlando qui a donc déjà été jouée dans la programmation de l'année dernière en mars.
Parle pas trop, je vais te poser des questions dessus.
Très bien, j'en parle pas du tout. Donc Orlando. Puis le 3, ce sera Ce qu'il nous reste, qui est donc le spectacle de Corentin ici présent, enfin dans lequel Corentin intervient en tant que dramaturge et à la technique.
C'est ça.
Puis le dimanche 4, ce sera Amadeus, qui a également joué l'année dernière pendant la programmation, qui est le spectacle de la Vieille Branche, un des spectacles de la Vieille Branche, donc qui revient
aussi en scène
par Nadine. Puis donc le lundi 5, ce sera la Grande Loterie du Monde Contemporain.
Qui, oh, ça aussi, c'est obscur.
Oui, non, mais effectivement, les Cités Muses cette année, c'est beaucoup de dynamisme dans beaucoup d'obscurité, donc c'est vraiment la surprise à venir découvrir. Non, mais vraiment, il faut venir découvrir, on ne sait pas ce qu'on va voir, on sait qu'on va passer un bon moment, mais il faut se laisser entraîner.
C'est une programmation qui est très très faite, qui a été très faite au feeling, à l'énergie, en fonction des. En fonction, ouais, voilà, de l'énergie vive que donnaient toutes les compagnies qui se présentaient, donc on sait sur quelle base de. Plaisir on part, on ne sait pas forcément sur quelle logique narrative.
Très bien.
Voilà.
Alors Camille, le temps d'une virgule musicale et tu vas changer de casquette et je vais te retrouver pour parler du spectacle que tu mets en scène aux Cités Muses, Orlando. Bonjour Camille, tes heures tu es aussi metteuse en scène, qu'est-ce que tu nous joues aussi tes muses ?
Alors on pourrait dire qu'est-ce que je vous rejoue puisque le spectacle Orlando a déjà été monté en mars et en fait chaque année on propose à un spectacle de la programmation précédente de rejouer pour le festival des Cités Muses. Or, cette fois-ci, Orlando, que certains d'entre vous ont peut-être déjà pu voir en mars, il ne s'agit pas d'une reprise, mais d'une recréation, puisqu'en fait, on a en partie réécrit la pièce, retravaillé sur l'esthétique de la pièce. Donc, en fait, ce sera à la fois complètement la même chose et complètement différent.
Alors, repartons du point de départ. Orlando, à l'origine, c'est un roman.
Oui.
Orlando. Virginia Woolf.
Mmh.
Alors, de quoi ça parle ?
Alors, Orlando, effectivement, comme son nom l'indique, parle d'Orlando, qui est un jeune aristocrate au début du roman qui se situe pendant l'Angleterre élisabéthaine. Et on suit les aventures de ce jeune homme aristocrate un peu nébuleux dans l'Angleterre qui poursuit sa vie au fur et à mesure des époques. Donc, c'est-à-dire que Orlando a toujours entre 18 et 30 ans, même si il est au XVIIe siècle ou au XVIIIe ou même en 1920. Donc c'est super. Il a vraiment trouvé le meilleur moyen de rester en forme toute sa vie. Mais il lui arrive une mésaventure qui est quand même plutôt à la fois originale et sympathique, à savoir qu'au milieu de sa vie, il s'endort et quand il se réveille, il devient une femme.
C'est une mésaventure d'être une femme ?
C'est-à-dire que quand, à mon avis, quand tu t'endors au milieu d'une bataille de Turcs à Istanbul,
et que tu te réveilles, avec,
tu
des
te réveilles avec des boobs, eh bien, il y a des chances que ce soit vaguement une mésaventure. Mais bon, après, elle s'en sort très bien, et justement, toute la suite du roman parle de l'adaptation de ce personnage qui a vécu toute sa vie en homme et soudainement se retrouve femme, donc regardée comme une femme vivant dans un corps de femme et comment, quelle différence ça fait, donc toute une grande réflexion sur la condition féminine.
Et alors, quel travail d'adaptation vous avez fait pour changer ce roman en pièce de théâtre ?
Alors, c'est Capucine Berton qui a fait l'adaptation du roman au théâtre, donc qui était élève en études théâtrales à l'ENS il y a quelques années. Et en fait, elle s'est majoritairement centrée sur les histoires d'amour d'Orlando qui, en fait, à chaque fois façonnent le personnage. C'est-à-dire qu'au lieu de retracer vraiment chacune des aventures d'Orlando, quelque part, à chaque fois, ce sont des rencontres. Donc, des rencontres avec la reine Elisabeth Ière, des rencontres avec une princesse russe dénommée Sacha et bien d'autres encore. Et au fur et à mesure de ces rencontres, justement, les personnages se prennent à... En fait, ce sont les personnages qui nous racontent leur rencontre avec Orlando. Pourquoi est-ce qu'ils viennent nous en parler, enfin, à quel point ça les a marqués, à quel point Orlando a pu être une obsession pour eux. Et c'est à partir de, justement, du point de vue des personnages que l'adaptation a été faite. Au lieu de centrer le propos sur Orlando directement, de renverser la chose et de dire eh ben, on va vous parler aussi d'Orlando plutôt que ce soit Orlando qui nous parle.
D'accord. Alors, si vous voulez retrouver plus d'éléments d'interview, vous pouvez retourner écouter le numéro 34 dans Spectateur où j'avais déjà interviewé Camille et où Capucine était également présente. Donc tu nous dis qu'il y a eu un certain nombre de modifications qui ont été apportées et qu'on va voir quelque chose de nouveau aussi. Donc je vous invite à retourner voir la pièce ou à aller la voir tout simplement. Tu peux nous dire un petit mot de la troupe avant de nous quitter ?
Alors c'est une jeune compagnie qui est en cours de création qui s'appelle la compagnie XXY. Et donc l'idée c'est justement de... Il y a plusieurs axes en fait dans le travail de notre compagnie. C'est de travailler justement sur un travail d'écriture que ce soit à partir d'un roman ou de quelques autres matériaux. L'idée aussi, c'est d'avoir une compagnie qui est le plus mixte possible. Enfin, ça nous tient assez à cœur de justement avoir pas qu'une compagnie avec que des femmes, même si on travaille sur la condition féminine, ou au contraire que des hommes. Donc on est à peu près 4 comédiennes, 4 comédiens. Et... on essaye de travailler justement sur toutes les thématiques qui tournent autour de la question des études de genre, de l'esthétique queer aussi. Et c'est un des domaines qui nous tient vraiment à cœur dans le travail, le travestissement, comment est-ce qu'on mobilise le genre au théâtre et toutes ces problématiques.
D'accord, merci. Alors tout à l'heure, je vous ai interrompu un peu vite et j'ai squeezé la fin de la présentation des Cités Muses. Est-ce que tu peux nous présenter la suite ? Ça permettra de faire la transition vers nos deux autres invités.
Oui, alors justement, je m'en étais arrêtée à la Grande Loterie du Monde Contemporain qui jouera le 5 octobre. La Grande Loterie du Monde Contemporain, ce sont des fragments de la vie d'un homme et d'une femme dans leur confinement respectif et autour d'eux, à moins que ce ne soit dans leur tête, des opérateurs techniques qui les regardent vivre et les secouent parfois pour voir ce que ça fait. Donc encore une fois, une sorte de pièce bocale expérience dans laquelle on met des gens et on voit ce que ça fait.
D'accord, théâtre expérimental. Alors, quoi d'autre ?
Puis ce sera Maxa, qui est une courte forme qui jouera non pas en Cantor, mais ailleurs dans le NS, autour du grand guignol et de la figure de Maxa. Puis ce sera In Between le 6 octobre. Alors du coup, In Between, c'est encore une fois une expérimentation sur la notion de frontière et dans quelle mesure est-ce qu'on peut se rencontrer, ne pas se rencontrer, et, enfin la frontière et la rencontre. Et justement, alors là du coup, je change un peu l'ordre des choses puisque nous avons un dernier spectacle qui s'appelle Foi, dans lequel joue Adèle Gascuel, qui jouera le 4 à deux reprises dans la journée, donc le dimanche 4 octobre à deux reprises à 14h et 18h30.
D'accord, très bien. Autre chose à ajouter ?
Non, je pense que je vais laisser parler les autres qui sont plus compétents que moi pour parler de leur spectacle.
Merci Camille. Alors je me tourne vers toi maintenant, Corentin. Donc tu vas nous présenter une pièce qui est donc
Ce qui nous reste.
D'accord. Donc pour lequel tu as été dramaturge dans une première partie et tu es maintenant à la technique.
C'est ça.
Alors de quoi s'agit-il ?
De quoi s'agit-il ?
Alors c'est expérimental.
C'est expérimental dans le sens donc c'est un projet qui est extrêmement ambitieux. J'en suis pas le metteur en scène, c'est Mélina Despretz, donc c'est toute une compagnie parisienne sous une metteur en scène parisienne. C'est expérimental au sens où c'est un spectacle qui s'est créé en deux parties. Il y a eu une première étape de création de ce spectacle qui a donné un rendu en février qui a été joué à Paris. Après quoi l'équipe a été légèrement refondue. Le spectacle a été démonté et remonté tout simplement parce que c'est un spectacle qui se veut partant des acteurs, partant de ce que chaque individu sur plateau donne. Et donc du coup, ce spectacle-là qui va être donné, ce qu'il nous reste, est la deuxième partie, c'est-à-dire la partie où le spectacle s'est réadapté à ce que les acteurs donnaient de ce spectacle. Et donc du coup, on a déconstruit tout ce qu'on voulait monter pour remonter quelque chose à partir de ce qu'il donnait. Ce qu'il nous reste, c'est une trame dramaturgique assez simple, en fait. C'est une étude de la tentative et de l'échec. C'est-à-dire, tout est dans le titre. Qu'est-ce qu'il nous reste pour nous relever constamment, après chaque échec, vers une tentative d'atteindre un idéal, vers une tentative de construire la beauté, vers une tentative de construire la poésie? Pourquoi est-ce qu'on se relève après un échec amoureux? Pourquoi est-ce qu'on se relève ou comment on arrive à reconstruire quelque chose quand un instant de poésie s'est brisé? Qu'est-ce qui se passe quand on profane un instant de beauté? Et tout le spectacle se construit comme ça, sur quelle est cette énergie-là qui nous reste quand on chute à répétition.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sans trop gâcher la surprise quand même, sur ce qu'on va voir sur scène?
Ce que vous allez voir...
On va pas s'en remettre.
Si, je pense que vous allez vous en remettre. J'ose espérer que ça va surtout vous parler, parce que moi, tout le long de ce projet, la raison pour laquelle ce projet me touche énormément, c'est que ça joue sur une corde sensible qui est chez tout le monde. C'est quelque chose d'extrêmement universel parce que c'est quelque chose qu'on expérimente tous les jours. Et à l'échelle de nos vies, quel que soit le domaine, c'est pas que sentimental, c'est pas que professionnel, c'est une condition humaine, entre guillemets, sans vouloir être trop pédant. Ce que vous allez voir sur scène, c'est des gens qui essayent d'être beaux et qui n'y arrivent pas et qui recommencent. C'est des gens qui essayent d'être amoureux et qui n'y arrivent pas. C'est un clown qui essaye d'être drôle et qui en même temps est triste, qui essaye d'être triste et dont on se moque pourtant. Vous allez voir des gens qui n'ont plus d'autres recours que de s'enfariner la figure pour arriver à faire rire.
D'accord. Alors, tu as dit que c'était une troupe parisienne. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
C'est une compagnie entièrement parisienne, donc la compagnie Incarnée, qui n'est pas qu'une compagnie, en fait, qui est une association plus largement, qui s'est créée en 2014, l'année dernière, en juin 2014, qui compte maintenant à peu près 22 membres, qui sont pas du tout que des élèves comédiens. On a des élèves scénographes, on a des graphistes, on a des photographes, on a des vidéastes dans la compagnie. Et donc c'est une association qui ne fait pas que des projets. Ce qu'il nous reste, c'est le premier projet en termes de spectacle. Et après, il y a une autre diversité, si vous voulez, dans ce qui se fait. Il y a beaucoup d'événementiels, beaucoup d'happenings, de l'animation de festival, du théâtre forain, de l'animation de soirée. Voilà, c'est extrêmement vaste, des projets photos, des courts-métrages.
D'accord. Et alors pour toi, pour t'intégrer un peu dans cet ensemble, comment ça s'est passé?
Donc moi, je suis à l'origine de la création de l'association avec donc Mélina Despretz, la metteur en scène, et Alexandra Colifrat. On était le premier bureau. Ça a été c'est une association qui s'est montée à l'origine par des amitiés très 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 intenses et très sincères. Et donc du coup, ça se construit un peu comme une grosse famille, quoi. Comme une grosse famille, et ça se construit principalement sur de l'amour. Mais du coup, c'est de très belles relations professionnelles. Parce que c'est une compagnie qui fonctionne exclusivement à la confiance totale en quels que soient ses membres, pour que tous les projets puissent se monter selon les compétences diverses de chacun. Et étonnamment, ça marche toujours à merveille. Donc,
D'accord. Alors simplement, pour repréciser un petit peu tes deux rôles, je ne sais pas si tout le monde dans la salle voit bien ce que c'est qu'un dramaturge, par exemple. Quel est le rôle d'un dramaturge? Et quel était un peu ton rôle sur cette pièce?
Il n'y a pas un rôle de dramaturge en soi, ça dépend de la posture de chacun. Moi, j'étais dramaturge et aussi assistant mise en scène sur la première partie, c'est-à-dire que c'est un conseil et un second regard auprès du metteur en scène sur qu'est-ce que le spectacle renvoie comme sens, qu'est-ce que le spectacle veut dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a l'intention de dire. La première partie du spectacle travaillait aussi avec des textes de Rimbaud, donc du coup, il y avait aussi une part conseiller littéraire dans la fonction. Et c'est pour ça aussi que je ne suis plus dramaturge sur la seconde partie, c'est pour ça qu'on a changé, parce qu'il y avait aussi une nécessité, puisqu'on refondait le spectacle, de donner un autre regard. Et donc du coup, l'assistante mise en scène sur le second projet, c'est Garance Vallet, qui du coup a servi à donner un autre second regard à la metteur en scène, pour lui permettre de ne pas se perdre entre son idéal et la réalité de son spectacle.
D'accord. Tu nous rappelles la date?
Ça se joue le 3 octobre à 20h30 en Cantor.
Merci Corentin.
Avec plaisir.
Et ma dernière invitée aujourd'hui, Adèle. Alors, tu es comédienne, qu'est-ce que tu vas nous jouer ?
Je vais vous jouer un solo qui s'appelle Foi, voilà, qui est un solo autour de la figure de Sainte Thérèse d'Avila.
Alors, quand tu dis un solo, c'est-à-dire ?
Un solo, ça veut dire que c'est un seul en scène, ça veut dire que c'est un spectacle... Là, je vais le jouer dans une forme courte, donc qui dure 35 minutes. Et je suis seule en scène, même si parfois on espère que Dieu viendra... Si les spectateurs sont très motivés, bon, j'espère qu'il viendra le 4 octobre. J'ai bon espoir.
Tu as bon espoir. Alors, la jeunesse de ce projet, un peu, tu peux nous en parler ?
C'est un projet qui date d'il y a pas mal de temps. La première création, c'était il y a 3 ans, je dirais. Je l'ai créé. C'était une sorte d'ébauche de projet de fin d'année quand j'ai fait le Conservatoire de Lyon, qui est une école de jeu à Lyon. Et je l'ai joué à l'Élysée à ce moment-là, au théâtre de l'Élysée à la Guillotière. Et suite à ça, le projet s'est repris plusieurs fois. Alors, faut savoir que je ne fais pas tout. Hein. J'ai une metteur en scène qui me dirige. Sinon, ça serait compliqué.
Tu as une metteuse en scène en même temps, pour toi tout seul, du coup ?
Ouais, bah, disons que j'ai eu une première metteur en scène qui a dû partir parce qu'elle avait du travail. Donc, j'en ai eu une deuxième. Et puis, quand on avait créé la version longue, il y a quelqu'un qui est arrivé à la technique. Et donc, parfois, quand je le joue, j'ai 3 personnes pour moi. Mais en général, une personne suffit pour avoir un regard et pour travailler, pour me diriger. Et voilà, du coup, je l'ai joué dans des théâtres lyonnais, au Théâtre des Clochards Célestes, au Lavoir Public, dans des appartements aussi.
Et voilà. Tu fais les représentations privées, d'accord.
Non, c'était public, c'était un... Enfin, public. Station,
dans
station,
la limite de la taille de l'appartement.
C'est un festival où les gens sont invités à faire un parcours à travers les pentes de la Croix-Rousse et à aller voir des spectacles. Voilà, c'était dans ce cadre-là.
D'accord, alors tu nous en dis un peu plus. Alors bon, donc si tout se passe bien, on verra Dieu sur scène, la présence
oui,
divine.
Oui, tout à fait.
Que verra-t-on d'autre ?
Alors, que verra-t-on d'autre ? En fait, peut-être pour reprendre la base, Sainte Thérèse d'Avila, c'est une mystique espagnole qui date du XVIe siècle, qui a écrit énormément de textes sur son rapport à Dieu. Qui est notamment connue pour le caractère érotique de ses textes, mais c'est pas forcément le centre non plus du propos. L'idée, c'est de s'approprier ces textes-là et de voir quel est mon rapport à ça. Mais du coup, c'est un jeu entre l'incarnation des textes de Sainte Thérèse d'Avila et puis d'autres personnages qui viennent dialoguer avec ça, qui sont plus ou moins proches de moi, Adèle, ou moi, la personne qui vous invite aujourd'hui à venir voir Dieu apparaître et qui espère que, comme Sainte Thérèse, si je prie très fort, il va venir.
Bon, tu ne coucheras pas avec Dieu sur scène.
Non. C'est pas ce que j'espère. J'espère qu'il va apparaître. Je souhaite l'apparition. Voilà. Mais voilà, ce qui veut dire que... Je pensais tout à l'heure... cette idée de théâtre expérimental, je pense qu'il y a quelque chose d'expérimental là-dedans, dans le sens où c'est comment, qu'est-ce qu'on fait de ces textes-là qui datent d'il y a quand même 500 ans et comment on se les approprie et comment on les entend. Après, il n'empêche que c'est un spectacle qui est quand même assez drôle. On va faire une compote de pommes tous ensemble en l'attendant. Enfin,
un truc sympa.
Ouais, voilà, c'est un spectacle qui fonctionne quel que soit, enfin voilà, qui peut s'adresser à tous et où on s'amuse aussi.
Promis. Tu nous rappelles la date ?
C'est le 4 octobre, du coup. Comme ça dure 35 minutes, il y en a deux.
Deux fois plus d'apparitions divines. On est sacrément
voilà,
chanceux.
Il va peut-être venir deux fois, je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, c'est 14h et 18h30. Voilà.
D'accord. Merci, Adèle.
De rien.
Corentin, il me semble que tu veux ajouter quelque chose.
Ouais, je tiens à ajouter quelque chose parce qu'on a donc fait toute la programmation théâtrale, on a parlé des festivals de courts-métrages. On n'a pas détaillé la programmation musicale puisqu'il y a deux concerts. Donc on a dit il y a le premier concert qui se joue le 1er octobre qui s'intitule Shake That Swing et qui sera donc du swing et de l'électro-swing avec deux groupes dont je n'ai plus les noms là tout de suite. Mais c'est du swing et de l'électro-swing.
Ce sera très bien.
Et il y a le concert de clôture puisque Décidémus se termine par un grand concert qui se fait le 7 octobre.
Le 8 octobre.
Et qui s'intitule donc, c'est la closing party. et qui fera jouer du coup Electric Safari, donc ça c'est de l'afrobeat. Et le deuxième groupe, c'est Wild Wild Waves. Et là, je vous conseille tous de prendre vos places parce que ça va être extraordinaire. C'est des basses très très profondes et des très grands espaces. Et c'est magnifique. Et c'est ouais, de la pop, du rock, de la trip-hop.
Et où est-ce que ça a lieu ?
Tout ça se fait en festive. Voilà, et c'est pour ajouter une petite ambiance musicale par-dessus ce festival parce que ce n'est pas que du théâtre, même si
oui,
on en parle
si
beaucoup.
Si t'es muse, il y a aussi le muse de musique.
Voilà.
N'est-ce pas ? Alors, chers auditeurs, c'est la fin de ce 45e numéro d'En Spectateur, en direct, en public, avec trois invités, la totale. J'espère qu'il vous aura plu. À la technique, je remercie Mathias, Nicolas et Clément. Je remercie aussi mes trois enseignants du jour, Camille, Corentin et Adèle. Et j'espère que nous vous aurons donné envie d'aller suivre la programmation des Cités Muses. Un rappel des dates de début et de fin, s'il vous plaît. Et où est-ce qu'on peut se procurer le pass des Cités Muses ? À quel endroit ? Pour quel prix ?
Alors, les Cités Muses auront lieu du 28 septembre au 8 octobre et le pass Cités Muses, vous avez déjà pu le trouver sur la chaîne de rentrée sur la chaîne d'inscription à la rentrée pendant les permanences, tout ça. Et à partir de 10 jours avant le début des Cités Muses, on va commencer à faire des permanences dans le rue Descartes et dans le hall du site Mono, où vous pourrez acheter des places individuelles pour les spectacles, et aussi le pass Cités Muses, qui coûte 15 euros et qui vous permet de voir tous les spectacles, tous les concerts et toutes les projections. Voilà.
Voilà, et ben vous savez tout. À bientôt donc, chers auditeurs. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.